Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Calade. Nous sommes le mercredi 28 juin 2023. Il fait beau dans le Beaujolais, le Val-de-Saône. On a des températures autour de 27 degrés cette année après-midi. Et pas de nuages de cendres canadiens pour l'instant, mais c'est quelque chose de plutôt inquiétant cette histoire. Dans notre émission, on devrait parler alimentation et santé avec notre nutritionniste Charline Simian. On retrouve le prof Patrick avant la fin de l'heure pour une chronique socio-économique. Mais avant tout ça, on va parler du Beaujolais Gaming Festival, événement dédié aux jeux vidéo qui aura lieu ce week-end, les 1er et 2 juillet, à la salle des Échevins à Villefranche. Un festival co-organisé par 4 associations, Hégémonie eSport, eSquare, PIUFR et enfin Prestart, dont on a un éminent représentant avec nous en studio, c'est Valentin Guénichon qui va pouvoir nous présenter le programme du festival, le Beaujolais Gaming Festival. On commence d'abord comme d'habitude notre émission en musique et aujourd'hui je vous propose d'écouter Jeez avec le titre 3D Country. On est ensemble sur Calade, il est 12h14, merci d'être avec nous.
Since I was born I've heard the voice of the father. Goes in the one ear, on out the other. Hit me baby. Show me the floor. I was Cassidy's gun and she was his daughter. That was the country and we were young. And I was water, I was rum. I don't let her around the Thompson no more, for she wanna go back to the sky high, mother. I'm back in Trastevere, dancing the Seven Hills, cutting my brother's neck, grabbing the dollar bills. The day the cowboy cried and I gave up on love and you gave up on life, and so began my second life. And honey, I'm leaving everything behind. Caesar's old roads are getting out of my mind. Now I'm burning up the night, rolling up the pieces of my
Rose sur Calade avec le titre 3D Cool Tree.
Ensemble sur Calade.
Et on va peut-être parler un petit peu de choses en 3D, c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau. On va parler en tout cas de jeux vidéo, et plus particulièrement du Beaujolais Gaming Festival. Et avec nous, pour nous en parler en studio, on retrouve Valentin Guédichon. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et merci d'être venu nous voir. Vous êtes représentant de l'association Press Start, président de l'asso.
Oui, je suis président de l'association Press Start Retro Gaming.
Retro Gaming.
Voilà, que on s'est déjà parlé. Il y a quelques temps.
On s'est déjà reçu à l'époque, on devait porter des masques. Aujourd'hui, c'est un peu plus agréable de discuter en studio. Pour rappel, Press Start Retro Gaming, j'ai envie de dire que tout est dans le titre.
Tout est dans le titre. on joue sur du rétro.
Du jeu vidéo rétro. Et en 2023, rétro, ça s'arrête à quand du coup? Est-ce que,
c'est une grande question.
Ouais.
On estime qu'il faut deux générations d'écart et au moins 10 ans. Sur les machines et sur les jeux qui sont plus édités, pour considérer que c'est rétro. Donc aujourd'hui, on peut considérer la PS3 comme étant une machine rétro.
Et la Wii aussi. La Wii, ce que j'allais dire. C'est, ok. Donc deux générations et donc des jeux vidéo. Et par contre, on remonte dans le temps sans aucune limite jusqu'aux premières consoles.
Ah bah jusqu'aux premières, oui, tout à fait.
Ok. Ça, c'est une association qui est à Villefranche.
À Villefranche, exactement.
Et vous vous êtes réunis avec 3 autres assos.
Tout à fait. Donc, on a 3 autres assos caladoises et moins caladoises, mais en tout cas, c'est des assos amis. On a Hégémonie e-sport qui fait, donc, comme son nom l'indique, du e-sport.
Ouais.
A-Square qui est également une équipe e-sport. Pew, alors j'entendais tout à l'heure PU, mais c'est pas faux de dire PU, c'est Pew, c'est Pump It Up. PewFR, et puis nous-mêmes, sur ce nouvel événement qu'on propose.
Bon, e-sport, c'est un mot qu'on commence à connaître un peu plus aujourd'hui, mais ça fait pas de mal de rappeler ce qui se cache derrière ce terme. C'est quoi le e-sport?
Alors le e-sport, c'est la pratique quasi ou voire 100% sportive du jeu vidéo.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on est sur des compétitions, sur un jeu en particulier, en équipe. Et j'aime à le rappeler, ça n'est pas simplement s'asseoir sur une chaise et manipuler une souris et un clavier. Il y a derrière tout ça des entraînements physiques. Il y a également une qualité de vie saine, d'alimentation, parce que ce sont des épreuves qui peuvent être extrêmement fatigantes. On peut comparer ça, par exemple, à la Formule 1, où les pilotes de Formule 1 ont l'air de juste conduire des voitures, mais
ils
en fait, c'est
dans
épuisant, c'est complètement épuisant, et effectivement, il y a un entraînement physique derrière pour tenir aussi longtemps. Le e-sport, c'est ça, c'est des grandes compétitions. Une de nos équipes, d'ailleurs, de ces associations, a participé à la... je vais essayer de ne pas me tromper de nom. j'ai oublié le nom de la compétition. C'est pas grave, c'est une des plus grosses compétitions françaises, donc honte sur moi.
Sur quel jeu?
Je crois que c'est sur Valorant, et me semble-t-il, ils ont ramené un prix. Voilà, donc c'est important de dire qu'à Villefranche, aujourd'hui, on a des équipes
de qualité
qui travaillent pour monter et grimper dans le top français.
Et pour qu'on se donne une idée, une compétition d'e-sport, ça ressemble à quoi pour avoir une idée d'un peu le...
Ça ressemble à des gens qui sont sur des ordinateurs, sur une scène, parce qu'aujourd'hui, c'est très scénarisé.
Ouais.
Alors qu'avant, vous pouvez imaginer les grandes LAN avec plein d'écrans, plein d'ordinateurs dans des grandes salles. Aujourd'hui, c'est extrêmement scénarisé. Il y a une scène, il y a comme un espèce de ring avec les équipes les unes derrière les autres qui s'affrontent.
Il y a du public.
Il peut y avoir des compétitions en ligne qui font les présélections. Généralement, les grandes compétitions qui sont des phases finales sont avec du public. Il y a un engouement incroyable. C'est très particulier comme ambiance.
Ouais.
Et on est vraiment comme dans un stade, en fait, tout simplement.
Et des matchs, des parties qui c'est surtout à ce niveau-là que je me demandais. Il y a des qualifs et
exactement. C'est le même principe que n'importe quelle pratique sportive.
Ça peut être long. Peut-être que toute la journée, il faut être concentré.
C'est tout à fait ça.
Ouais.
C'est exactement ça. On est dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'on est dans des tournois et il faut effectivement affronter des équipes les unes derrière les autres.
Et le jeu vidéo, en général, une petite bêtise et ça peut foirer la partie.
Ça dépend, les règles sont... Alors moi, c'est pas ma partie, le e-sport, donc je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, les règles sont faites de telle manière que ça permette d'avancer, qu'il n'y ait pas de gens mis sur le côté, qu'il y ait des rattrapages et des choses comme ça. Voilà. C'est un peu comme n'importe quelle compétition sportive aujourd'hui. Vous faites la consulante au concours de boules du coin, c'est pareil. En fait, il y a le même principe,
d'accord,
le même système.
Il y a les rattrapages. Donc, Hégémonie, e-sport et e-square. A-Square.
C'est A-Square, tout à fait, à l'anglaise.
Deux équipes du coin, donc.
Deux équipes caladoises.
Avec, j'imagine, peut-être des spécificités sur les jeux auxquels ils jouent.
Ils ont plusieurs, effectivement, il y a plusieurs jeux sur lesquels ils jouent. Il y a Valorant, par exemple, il y a League of Legends aussi, les équipes League of Legends. Et puis, on a quelques participants sur des jeux comme Rocket League, hein, le fameux football en voiture.
C'est ça.
Le truc qui ne peut difficilement et que c'est
pas imaginable dans la vraie.
On fait bien du motoball, on pourrait, mais c'est, bon, c'est compliqué. Et puis on a aussi deux trois approches sur Minecraft et des choses comme ça. Voilà, c'est les jeux varient, il peut y avoir des variations. Il y a aussi quelquefois du jeu mobile. Pour l'instant, c'est pas ce sur quoi ils sont concentrés.
Ok. Et Pew FR.
Alors Pew FR, ce sont des jeux de rythme danse sur des tapis mécaniques. Électronique, comme on peut voir dans les salles d'arcade, avec des flèches, il faut taper avec ses pieds sur la bonne case.
Okay.
Et donc il y a deux disciplines, parce qu'il y a deux grands jeux dans ce domaine-là. Il y a Pew, donc Pump It Up, et DDR, Dance Dance Revolution. Et la différence se situe au niveau de la position des touches au sol. Dans un cas, il y en a cinq, dans l'autre, il y en a quatre. Elles sont en diagonale ou pas.
Okay.
Voilà, c'est une approche différente, mais en tout cas, c'est le même genre de jeu. Danse rythmique, et là, on en brûle les calories.
Ouais, c'est sportif.
C'est extrêmement sportif, c'est aussi une discipline e-sport,
ouais.
Qui est d'ailleurs qui est très prisée. Et on a la chance d'avoir une équipe lyonnaise, et avec des membres éminemment bons, puisqu'ils sont bien classés. Je crois qu'il y a un top français, il me semble, dedans. Si je dis pas de bêtises, je sais pas si c'est encore le cas, puisque... Comme pour tout, les classements bougent sans arrêt.
Ouais, et c'est super difficile.
Parce que
on voit le tapis et l'écran avec les flèches qui défilent, on se dit
c'est bien. C'est bien. Très physique.
Mais monter sur le tapis et.
C'est un guitar hero avec les pieds, pour ceux qui connaissent, c'est à peu près ça.
Et au bout de 3 minutes, on est trempé de sueur. Et puis, la quatrième association qu'on a évoquée rapidement, c'est Prestart Retro
Prestart,
Gaming.
Tout à fait.
Ça marche comment, ça? Du coup, les activités de l'association, c'est de collecter, de mettre en valeur.
Alors, le Prestart, nous, on est beaucoup dans le partage d'une collection. Hein. C'est effectivement, on ne crée pas d'animation sur la base de tournois comme peuvent faire les autres. On est dans le partage, on est dans le musée qu'on peut toucher, on est dans le, on va dire, l'éducation pédagogique, la pédagogie auprès du jeune public, pour expliquer qu'effectivement, il y avait un temps avant la PS4, la PS5, etc., que les jeux n'étaient pas forcément mauvais, qu'il y avait une jouabilité différente. Ce qu'on présente, c'est par exemple qu'on a des manettes qui sont complètement différentes, et ça permet aux gens de comprendre qu'en fait les approches étaient, il y avait de la recherche, en fait il y avait du tâtonnement, etc. Et donc on est capable, nous, de présenter 50 ans d'histoire du jeu vidéo avec des machines qui remontent jusqu'à la première, 1972, sous la forme d'un mini-musée, par exemple.
Et des contraintes, je crois que les jeux vidéo se sont développés avec les contraintes techniques, c'est qu'aujourd'hui, à un moment donné, on pouvait faire telle chose, et il fallait réussir à... un jeu vidéo, ça raconte une histoire, il y a une jouabilité donnée, etc. Donc,
Tout part de l'arcade, en fait. C'est soit on fait du scoring, soit on raconte une histoire. Et en fait, à partir du moment où on a commencé à raconter des histoires sur les jeux vidéo, c'est notamment l'avènement de Nintendo avec des Super Mario, des trucs dans ce goût-là, qui ne sont plus simplement
très
du scoring.
Simple,
histoire très simple.
On va sauver une princesse, mais...
Voilà. Mais en tout cas, il y a une histoire, il y a un parcours à réaliser. Et là, on est sur des modes un petit peu différents. On est embarqué complètement et on passe des heures, mais... Si on s'arrête, c'est beaucoup plus grave que de s'arrêter sur un scoring qu'on peut recommencer parce qu'on a une certaine dextérité.
Ouais.
Là, c'est plus tout à fait la même chose. On découvre des choses secrètes, etc. Et c'est ça qui est fun.
Ouais. Et donc, le Beaujolais Gaming Festival, c'est un peu la réunion de ces quatre associations pour présenter le jeu vidéo en calade, ce qui existe aujourd'hui, ce qu'on peut y faire. Qu'est-ce qui va se passer au cours de ce festival?
Il va se passer plein de choses, on va vous en mettre plein les mirettes, ça va être génial. Alors déjà, c'est ce week-end, effectivement. Ça se passe à la salle des Échevins. Je crois qu'on ne l'a pas mentionné. Donc c'est une salle qui fait dans les 350 mètres carrés, qui est une très très belle salle sur Villefranche.
Ouais.
Et on va occuper la totalité de la salle, et ça va être magnifique avec la chapelle, notamment.
Ouais.
Et ça va être très très beau. C'est une salle qu'on occupe déjà pour le Festival des Jeux, du Lions Club, qui se déroule tous les ans en début d'année, qui est un événement caritatif. Donc si jamais certains des auditeurs sont venus sur le Festival des Jeux, ils vont retrouver sensiblement les mêmes choses et plus. Parce que Là, on est plus dans quelque chose qui est une grande fête. Donc, on va avoir, en plus de toutes les installations de jeux vidéo auxquelles on va pouvoir participer, on va créer donc des mini-tournois. On va avoir une tombola aussi également pour gagner certains lots. Et puis, on va avoir des invités, ouais. Chose qu'on n'a pas habituellement. Et dans les invités, on a une mangaka, par exemple, Pelishi, qui est dessinatrice de manga, qui ouais. nous fait l'honneur de venir. On a aussi des youtubeurs. Docteur 16bit, qui est un local de l'étape, qui est sur à côté de Lyon, qui lui est très rétro gaming, mais qui est surtout un gros fan de jeux Barbie, donc il va venir avec son expertise sur le jeu
vidéo Barbie.
Exactement.
D'accord.
Et puis on a Vintage Players, qui est un de nos habitués, effectivement, qui est aussi un local et qui est un quelqu'un qui fait beaucoup de tutos et de mode, de ce qu'on appelle modification de console. Et il sera là avec des belles consoles et des belles surprises qu'il a modifiées récemment,
okay.
Avec des belles customisations, personnalisations qui sont magnifiques. Et puis on aura également un peu de merchandising, un peu de goodies, parce que les gens aiment ça, et c'est pour ça que l'entrée elle est pas chère, c'est qu'on veut laisser la possibilité aux gens de repartir avec un souvenir. Et donc on a quelqu'un qui vient proposer des sacs surprises avec des goodies qui seront 100% officiels, et ça je tiens à le dire parce que c'est relativement rare, c'est pas du plastique, c'est pas, si, mais bon, c'est pas du cheap, c'est ouais. vraiment du 100% officiel, licencié, Bandai, etc. On va avoir pas mal de figurines et de goodies Pokémon, One Piece, des cartes aussi, des figurines manga, et pas mal d'articles qui sont relativement rares, donc ça vaut le coup d'être là pour ça.
Ouais. Et j'imagine que les auditeurs vont venir pour jouer aux jeux vidéo sur un festival de jeux vidéo. À quoi est-ce qu'on va pouvoir jouer et comment ça se passe pour venir jouer dans un festival aux jeux?
Alors, ils vont pouvoir jouer à tout ce dont on a parlé, ce que proposaient les associations. On va évidemment... la place est relativement limitée, mais on va pouvoir faire effectivement du Pump It Up, comme je disais tout à l'heure, du DDR. On va pouvoir faire des jeux vidéo modernes en e-sport, découvrir ce que c'est que le e-sport,
ouais.
se mettre en situation de compétition.
Avec des équipements particuliers, c'est-à-dire que...
Alors, les ordinateurs sont ouais. mis à disposition. Personne ne vient avec son matériel, bien évidemment. Ouais. Ordinateur, casque, clavier, etc., qui sont le vrai matériel du e-sportif. Une disposition qui va être celle d'une compétition, donc pour proposer ça. Et puis côté rétro, c'est comme on fait habituellement, c'est-à-dire une sélection de machines rétro. Et surtout, on va en plus cette fois-ci, chose qu'on ne fait pas habituellement, proposer un espace pour les moins de 7 ans. On offre l'entrée aux enfants de moins de 7 ans, mais on ne veut pas qu'ils restent sans le sou et qu'ils soient un petit peu à la traîne des autres.
Ouais.
Et pour éviter qu'ils soient sur des jeux qui sont trop durs pour eux et qui ne sont pas adaptés à leur âge, on va proposer une sélection de consoles qui vont de 3 à 7 ans.
D'accord.
Ouais, y a des jeux vidéo pour les enfants de 3 ans, ça existe. C'est du ludo-éducatif,
ouais.
c'est très sympa. Et on réserve ce petit espace pour la première fois qui sera vraiment dédié pour eux.
Pour venir découvrir et puis essayer en famille. Je pense que
exactement.
Papa, une maman passionnée de jeux vidéo qui fait découvrir ça à son pitchoun, ça doit être des beaux moments aussi. Est-ce qu'on peut manger, est-ce qu'on peut boire sur place ou est-ce qu'on va juste jouer aux jeux vidéo?
Évidemment, on veut que les gens restent. On est là pour passer un moment. C'est pas juste un petit festival où vous venez, vous rentrez, vous sortez. C'est sûr qu'à 5 euros l'entrée, on pourrait imaginer rentrer, rester une heure et partir, mais on va plus loin et on propose effectivement food et drink, comme on dit dans le milieu. Donc on a une sélection de nourriture typée spécialité coréenne qu'on a fait maison,
ouais.
en très grande partie. On ne peut pas tout faire non plus, mais on a une très grande partie qui est faite maison. Vous allez vous régaler avec c'est de la street food coréenne, hein. Ce qu'on appelle au Japon les gyoza, qui porte le nom, qui s'appelle mandu en coréen, les corn dogs, qui sont les fameuses saucisses de
voilà, brochettes,
fromage, etc., qui sont vraiment extrêmement bonnes. Et puis on aura des japchae qui sont l'équivalent un petit peu des bols de mélange de nouilles avec des ingrédients supplémentaires. C'est un peu healthy, donc c'est classe. Et puis il y aura du snacking à côté, il y aura des boissons. On est aussi on aura de quoi se désaltérer pour les plus grands également.
Très bien. Bon, je crois que tous les ingrédients sont là pour
tous les ingrédients sont là. Je mentionne que en fait on est soutenu par des partenaires.
Il faut rendre ça
possible. Effectivement, le prix d'entrée n'est pas bien cher. Il y a du monde, donc il faut...
Exactement, ils sont là pour nous soutenir et on est très heureux. Et, on a donc l'Hôtel Plaisance, on a Campus City, qui est un des acteurs de l'informatique sur Villefranche. On a le CGR et Cap Agence, qui est une agence de médias. Et tous ces gens-là vont nous permettre de vous offrir, sur les tournois et sur la tombola, qui est une tombola tampon, hein, il va falloir falloir aller chercher le tampon sur les stands.
Ah, d'accord, ok.
Voilà. Donc vous allez pouvoir gagner des places de ciné, donc offertes par le CGR. Il va y avoir des goodies, des collectors, des jeux, des consoles rétro, des t-shirts, des figurines, enfin plein de choses, tout ce qui constitue l'arsenal geek jeux vidéo qui peut exister. Mmh. Et puis bien entendu... le festival ne serait pas connu sans les partenaires presse et radio, et je remercie évidemment Radio Calade de nous avoir invités.
J'ai entendu le mot cosplay, moi, à un moment, je crois, en regardant, et pour moi, un festival de jeux vidéo, ou tout ce qui touche à Japan Touch, etc., bah, y a des costumes, il y a des gens déguisés.
Le cosplay, c'est une constante, effectivement, dans le jeu vidéo, hein, on est d'accord. C'est pas forcément du côté e-sport qu'on le trouve, mais c'est une espèce de discipline à part entière, puisque les gens font ça à eux-mêmes. Ouais. Et là, on invite effectivement tous nos visiteurs à venir, à ne pas hésiter à venir dans le costume de leur personnage préféré, parce qu'on est là pour faire la fête et que c'est évident que ça se passe aussi bien comme ça. Et peut-être que certains des dirigeants des associations... vont porter le costume aussi. Ce sera à découvrir. Voilà. Parfait. N'en dis pas plus.
Le rendez-vous est donné. C'est ce week-end, les 1er et 2 juillet, au Beaujolais Gaming Festival, salle des Échevins. J'ai pas donné les horaires. C'est de quelle heure à quelle heure ?
10h-18h. On aura peut-être une petite prolongation samedi si les gens restent. 10h-18h, samedi et dimanche.
Très bien. Et sur Hello Asso, si on tape Beaujolais Gaming Festival, on peut réserver ses places.
Exactement.
À l'avance, je crois que c'est intéressant en plus financièrement. Donc,
c'est intéressant, on a mis en pré-vente à 5€. Effectivement, sur place, c'est un tout petit peu plus cher, mais voilà, n'hésitez pas à la pré-vente, c'est fait pour ça.
Parfait. Merci beaucoup.
Un grand merci à vous.
À très bientôt.
Merci.
Ensemble sur Calade.
Allez, on écoute Simone Ringer. J'ai cru comprendre qu'on allait pouvoir danser du coup avec le Pew et le DDR au Beaujolais Gaming Festival. On écoute donc son titre Dance. C'était Simone Ringer qu'on vient d'entendre sur Calade avec le titre Dance. Et tout de suite, que va-t-il se passer ?
Alimentation, santé.
Ensemble sur Calade.
On parle d'alimentation et de santé. Et pour cela, on retrouve notre nutritionniste Charline Simian. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous allez bien ?
Oui, est-ce que vous m'entendez correctement ?
Eh bien parfaitement, tout va bien.
Ah. Parfait.
Je voulais vous demander, Charline, c'est bientôt l'été, c'est la fin de saison pour l'émission Ensemble sur Calade. Et évidemment, j'ai cette problématique extrêmement importante de préparer mon summer body pour aller à la plage. Qu'est-ce que je fais, madame la diététicienne
vous demandez à quelqu'un d'autre qu'à moi ?
Ouais, je voulais vous embêter un petit peu.
Oui, j'ai bien cru comprendre, parce que bon, globalement, alors, quand bien même... c'est un peu tard, hein, parce qu'on est déjà en summer, donc c'est un petit peu tardif. Vous connaissez mon adoration pour ces cures de régime minceur express, il faut avoir tel corps pour aller à tel endroit. J'ai envie de dire, si vous avez un corps, quelle que soit sa forme et quelle que soit son histoire et quelle que soit sa vie, du coup c'est l'été, vous avez un corps d'été, donc un summer body. On est un peu là-dessus, quoi qu'il arrive, que vous ayez envie de le moduler ou pas, globalement on est quand même sur du c'est un peu tard. Voilà, ouais. On va pas se mentir. L'effort, il faut le fournir sur le long terme en réalité. C'est-à-dire que si vous avez envie d'améliorer votre aspect, votre poids, de vous muscler derrière l'oreille droite, effectivement, ça c'est pas. En tirant sur votre masque et avec ce fameux élastique de résistance que ça va muscler votre arrière d'oreille, voyez.
Ouais.
C'est un petit peu tard. Maintenant, on peut très bien ne pas être très bien dans son corps. Après, il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre en œuvre. Il existe des t-shirts si on n'a pas très envie d'exposer un bikini alors qu'on a un corps qui va pas trop bien avec. Il y a tout ce genre de choses-là. Il y a quelque chose qui est extrêmement important. Alors, je parle à nos auditrices parce que c'est souvent elles qui sont malheureusement un peu maltraitées par tout ce summer body, justement. Vos enfants, par exemple, eux, ce qu'ils retiendront, c'est que maman, elle jouait pas avec eux sur la plage et pas elle avait un gros bidon et que c'est ça qui posait problème. Vos enfants vous demandent d'être avec eux et pas de vous cacher ou de vous refuser de participer à ça avec vos enfants juste parce que la norme sociale vous a dit que votre corps ne rentrait pas dans cette norme qui, on va pas se mentir, est de pire en pire avec les réseaux, les filtres, les machins, les trucs. En 2023, quoi. On en est encore au summer body. Ça veut dire que ça ne marche peut-être pas si on est encore obligé d'en parler en 2023. Si ça fonctionnait, on n'aurait pas cette problématique.
On aurait tous...
On accepterait soit tous d'avoir un body pour le summer, soit finalement il n'y aurait pas de sujet finalement de se faire ce fameux summer body pour arriver à je ne sais quel idéal dans lequel en plus, si jamais vous obteniez ce summer body, est-ce que vous seriez mieux dans votre vie au quotidien ? Est-ce que vous auriez plus de plaisir à table ? Est-ce que vous auriez plus de plaisir ? C'est pas une évidence en soi, en réalité. C'est-à-dire qu'on vous vend cette image d'épinal un petit peu en disant c'est ça qu'il faut faire. Est-ce que ça vous rend heureux ? Quelle somme d'efforts pour obtenir ce résultat-là ? Et quelle somme de plaisir pour obtenir ce résultat-là ?
Ouais. Donc soyons comme on est. Et puis moi je retiens un conseil important, c'est profiter de l'instant et pas se pourrir la vie pour... une image qu'on pourrait refléter, pas aussi facile que ça, c'est très facile de le dire, mais essayer de profiter de l'instant un maximum, quoi, c'est ça ?
Tout à fait, et puis la cicatrice, la vergeture, le machin, c'est aussi votre histoire de vie. À un moment donné, vous avez été opéré de l'appendicite, vous avez une cicatrice, et celle-là, vous aurez beau avoir un summer body, à un moment donné, elle sera quand même là.
Ouais. Et il faut vivre avec.
Faut vivre avec et vous avez un corps fabuleux qui fait des tas de trucs fabuleux tous les jours, mais on ne s'en rend pas compte.
Effectivement. Merci beaucoup, Charline, pour ces conseils. Ouais. J'ai plus besoin de. Enfin, j'ai déjà mon summer body, j'ai bien compris.
Voilà, exactement. Passez un bel été avec lui.
Merci beaucoup, Charline. Très bel été. À vous aussi.
Merci à vous aussi. Au revoir.
Ensemble sur Calade.
Allez, bah, puisque je pensais à la plage, écoutons un morceau qui parle de plage. Voici les Crystal Fighters, Plage.
Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there four in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Come down, 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 my love is calling.
C'est le morceau qu'on vient d'entendre, c'était les Crystal Fighters, avec donc Plage.
L'expansion économique, c'est la richesse de la commune, c'est la
banque. Ensemble sur Calade.
Le prof Patrick.
Et tout de suite, on retrouve le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Et prof Patrick, il n'est pas seul à nouveau.
Toujours avec Geneviève pour la deuxième partie de notre crossover prof Patrick et histoire de femme, femme d'histoire. Bonjour Geneviève.
Bonjour à tous, bonjour Patrick, bonjour Mathieu.
Bonjour Geneviève.
Donc la semaine dernière, on a parlé avec Geneviève de la question des perturbateurs endocriniens et du travail fondateur de Rachel Carson, donc dans les années 60, pour faire découvrir ce problème au monde ébahi et avoir une influence majeure sur les premières réglementations, interdiction du DDT dans les années 70, concernant donc cet immense problème que sont les perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des substances chimiques qui viennent dérégler le corps humain, dérégler le système endocrinien. Alors un point intéressant, c'est que Rachel Carson avait une approche que je dirais holistique, une approche globale. Et là, c'est vraiment typique des écologues, hein, des scientifiques de l'écologie. Dans son livre, donc, Printemps silencieux en 62, elle nous a permis, par cette approche globale, de comprendre comment ces perturbateurs endocriniens déréglaient complètement le vivant et pas uniquement les êtres humains. Et donc, de comprendre la toxicité des pesticides, du DDT notamment à l'époque, sur le système endocrinien. On va aujourd'hui parler d'une deuxième chercheuse qui, alors, on se déplace dans les années 90, hein, on a passé quelques deux décennies, et c'est une autre scientifique américaine qui est une femme tout aussi atypique que Rachel Carson. Elle s'appelle Theo Colburn, nom qui peut, enfin, prénom un peu masculin, mais c'est bien une femme, Theo Colburn. C'était une pharmacienne au départ, elle est née en 1927, elle a passé un doctorat en zoologie, devinez quoi, après 50 ans. Encore une femme originale. Mmh. Elle a arrêté ses
après
études, elle a repris
chapeau.
Ses études après 50 ans. Et elle commence, zoologie, c'est son domaine, à s'intéresser à la baisse de fécondité de certains animaux sauvages dans la région des Grands Lacs. Et elle prend conscience que, ils ont été exposés massivement à des substances chimiques, les PCB notamment, et que ça pourrait bien être l'origine du problème.
Attends, 30 secondes, PCB.
Poly, alors, hein, tu essaies de me coincer, Geneviève, c'est gentil, merci.
Ouais, je sais,
alors,
c'est mon côté candide. Hein.
Polychlorobisphényl, voilà.
Ah, ça m'arrange bien.
Triple, j'ai gagné, tu as perdu. Et donc, elle va s'intéresser ensuite aux malformations congénitales qui touchent tout un tas, enfin un certain nombre d'enfants dont les mères ont suivi un traitement médicamenteux. Le distilbène, la thalidomide.
Ça me dit vaguement quelque chose.
Il y a des perturbateurs endocriniens dans certains médicaments. Elle va compiler des milliers d'études. Elle va former un réseau de scientifiques. Un peu la même méthode que Rachel Carson, n'en avait pas trop dit, hein, forme un réseau scientifique dans des domaines de recherche complémentaires comme l'endocrinologie, la toxicologie, l'écologie, pardon, la pharmacologie, l'anthropologie, la biologie du cancer, la psychologie, la zoologie, etc. Donc vraiment un travail pluridisciplinaire, un travail en équipe qui va se faire sur plusieurs années pour compiler vraiment des informations de tous ordres, pour avoir une image vraiment globale de ce problème. Et donc, c'est grâce à ça qu'elle va rassembler, tant pour la santé humaine que pour la santé des êtres vivants, un nombre de données gigantesques. Et elle va identifier que les problèmes répondent à un mécanisme qui est le mécanisme de la perturbation endocrinienne. D'accord. Donc, alors je ne vais pas re-exposer. Dans la première chronique, j'en ai parlé un petit peu de ces perturbateurs endocriniens. À savoir, notez quand même que les effets sont destructeurs et les effets se transmettent à la descendance, hein, des perturbateurs.
Donc ça a une influence en fait sur la génétique, ouais, transmise.
Ouais, alors me demande pas comment, je suis pas scientifique, mais en tout cas ça se transmet à la descendance et ça c'est terrible. En juillet 91, elle lance un appel, l'appel de Wingspread, qui rassemble 21 scientifiques donc de toutes ces disciplines que j'ai citées, et qui ont partagé leurs connaissances, un appel pour pousser le monde politique à lutter plus efficacement sur la question des perturbateurs endocriniens. Et ce travail de fond qu'elle fait avec ses scientifiques va durer toutes les années 90, qui va amener en 98, donc 7 ans après, à la publication du Wingspread Statement. Donc c'est vraiment un document scientifique à destination des scientifiques et des politiques.
Voilà. D'accord. Et pas grand public, mais en tout cas avec une vraie volonté engagée.
Deux ans avant, elle a traduit ça dans un langage plus compréhensible dans un livre qu'elle a appelé Our Stolen Future, notre futur qui nous a été volé. Et là, elle fait une synthèse de tout son travail, mais pour le grand public. Donc un travail à la fois côté politique, scientifique et grand public. Et elle ira jusqu'au Congrès américain pour défendre la nécessité de reconnaître plus à fond le rôle terrible des perturbateurs endocriniens.
Et quel accueil il y reçoit ?
Bah, comme d'habitude, hein, une bonne partie du personnel politique est dans les mains des lobbies, que tu as cité dans la chronique
dernière.
La semaine dernière, donc résiste, et puis une autre partie va petit à petit admettre ça, et c'est une lutte d'influence, hein, comme d'habitude dans le monde politique. La grande difficulté, je l'avais cité au début de la première chronique, c'est cette histoire de la pensée traditionnelle de la toxicologie qui dit en fait la dose fait le poison, c'est-à-dire qu'en fait à faible dose un produit chimique n'est pas dangereux, il faut des fortes doses. Oui, mais dans les perturbateurs endocriniens, comme je l'avais expliqué, ça marche pas. Les perturbateurs fonctionnent, système clé serrure, c'est ça, fonctionnent immédiatement même à très faible dose. Et ça, c'est un énorme travail aussi de résistance, un petit peu avec le monde scientifique également, hein, qui s'accroche un petit peu.
Qui s'accroche à cet adage qui remonte à la Renaissance, hein, quand même. Hein.
Tout à fait, ça remonte très très loin, cette histoire-là.
Ça a été fondateur de toute la science moderne.
Ouais. Alors, comme tu l'as dit la semaine dernière pour Rachel Carson, ça va être rebelote. Les industriels, ils vont faire quoi? Ils vont massivement financer des recherches dans le but de contredire les travaux de Théo Colburn et de ses collègues. Ils vont jouer, alors ça c'est intéressant parce que c'est encore vrai aujourd'hui, sur la question de la nature de la preuve et de la charge de la preuve. C'est-à-dire, la stratégie souvent des industriels, c'est d'exiger des niveaux de preuve scientifiques dont on sait qu'ils sont impossibles à atteindre. Et comme ça, c'est bon. Ils peuvent conclure, on n'a pas la preuve, donc on peut continuer notre business. Et ça, c'est une stratégie qui est systématique. On exige des niveaux de preuve impossibles à atteindre. On ne peut pas avoir la preuve absolue. D'accord ? Donc, c'est l'argument en disant, la preuve pour l'humain de la toxicité n'est pas apportée, donc on ne réglemente pas. Dans les débats actuels, au niveau Union européenne, France, c'est la même chose encore. Bon, 2012, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, reconnaît que les perturbateurs endocriniens chez les humains sont une évidence, ne sont plus une hypothèse. Donc il y a une avancée. Théo Colburn va prendre sa retraite à 76 ans, et sa retraite, elle ne va pas s'ennuyer pour autant, puisqu'elle va créer une ONG à but non lucratif, alors Endocrine, je ne sais pas trop comment on dit, Disruption Exchange. Bon, bref, un nom imprononçable. Mais ce n'est pas grave, une ONG qui a pour but d'informer le plus grand nombre sur les problèmes de santé publique créée par les perturbateurs endocriniens. Donc elle va encore une fois continuer à rassembler des études, des centaines d'études sur, tiens, les fameux bisphénols. On en parle beaucoup,
on
des bisphénols,
oui,
contenus dans tout un tas de produits plastiques. Elle va publier des listes de substances chimiques qui causent des perturbations endocriniennes. Bref, elle continue son immense travail de fond et elle décède en 2014.
D'accord. Donc, telle une petite fourmi, elle a réussi à compiler des preuves.
Ouais.
Alors, certes, pas à hauteur acceptable pour les lobbies, mais en tout cas indiscutable pour tout scientifique.
Indiscutable, ouais. On peut finir en se posant la question, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
Ouais. Qu'en est-il de ces fameux perturbateurs ?
Alors, c'est tout le monde a pris conscience de la dangerosité des perturbateurs endocriniens, c'est clair. Pour autant, on n'avance pas très très vite parce qu'on pourrait dire qu'on est encore au stade des études. L'ANSES, qui est l'organisme officiel qui régit toutes les questions des produits chimiques et de leurs autorisations, a publié une liste de 906 substances à étudier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est à étudier. Vous voyez, on n'avance pas vite quand même. En mise en place d'obligations d'information, il y a tout un tas. Il y a une loi en 2020 qui permet d'accentuer cette obligation d'information du grand public sur la présence des perturbateurs endocriniens. Au niveau du Code du travail, à ce jour, il n'y a aucun texte spécifique qui s'appliquerait aux perturbateurs endocriniens. Donc, on en reste aux textes généraux, en quelque sorte, sur la prévention, sur les règles, sur les agents chimiques cancérogènes, mutagènes, toxiques, etc. Mais on voit que ça avance lentement. Au niveau européen, on n'arrive pas encore à se mettre d'accord sur une définition commune de la notion de perturbateur endocrinien. Donc,
définition, juste
ouais,
ça.
Juste la définition. Okay. Ouais. Donc ça, c'est toujours un bon moyen, encore une fois, pour passer entre les gouttes du côté des industriels, en quelque sorte. Un élément important commence à être mieux connu scientifiquement et mieux accepté, la notion d'effet cocktail. L'effet cocktail, c'est l'effet de plusieurs substances combinées entre elles. On ne trouve pas individuellement un effet nocif de chaque substance individuellement, mais ensemble, on commence à trouver un effet. Ça fait longtemps qu'on le sait intuitivement, mais scientifiquement, ça commence à être un peu plus solidement établi. Et c'est compliqué, l'effet cocktail, parce qu'aller définir les effets cocktails de tel et tel produit, il faut y examiner tous les cocktails possibles, en quelque sorte. Donc, c'est assez complexe. La grande difficulté, c'est que les perturbateurs endocriniens, je vais finir en plombant tout le monde, parce que c'est un peu mon style, Mathieu le sait, c'est pour ça que
j'ai complètement réfléchi à une
psychothérapie à cause de moi. Mais ça fait rien, je vais le faire. Les perturbateurs endocriniens sont partout dans notre environnement. On en mange, on les inhale, on les touche. Le bisphénol A, il est présent dans tous les plastiques alimentaires. Les phtalates sont présents dans les cosmétiques qui contiennent des microplastiques. Et il y a les phtalates dedans. L'alimentation ultra transformée, c'est tous les plats préparés de l'industrie agroalimentaire. Eh bien, il y a des perturbateurs endocriniens. Dans nos vieilles peintures d'autrefois, il y a du plomb.
Oui. C'est pour ça qu'elles tiennent aussi bien.
Ouais. Dans les fruits et légumes, il y a des résidus de pesticides. Bref, il y en a de partout. Donc, il y a du boulot encore. Geneviève, remonte le moral à tout le monde.
Ouais, écoute, je vais essayer. D'une manière très, très claire, très simple. En fait, faites attention à ce que vous consommez.
Renseignez-vous.
Voilà, j'étais en train de réfléchir pendant que tu nous énonçais tous ces effets terribles. Il existe des applis indépendantes où on peut tester les cosmétiques, les produits alimentaires, etc., que l'on consomme, de façon à juger par soi-même même. Et c'est important d'avoir cette idée de jauge.
Ouais.
C'est-à-dire que vous avez certains produits qui vont apparaître avec une note de 50 ou 60 sur 100, avec des produits qui sont labellisés comme étant à risque modéré. Mm-hmm. Mais encore une fois, tu l'as bien signalé, il y a un effet cocktail. Donc,
exactement.
Est-ce que je suis OK pour consommer un produit complètement vert, excellent, ou est-ce qu'au contraire, j'accepte que tel produit était peut-être un peu moins bon, mais je vais faire attention à autre chose. Enfin, voilà, en clair, la vigilance. Ouais. Nous sommes ce que nous mangeons.
Exigeant sur l'information.
Soyons exigeants. Ouais. Voilà.
Parfait. On en a terminé, Mathieu.
Merci à tous les deux. À très bientôt.
À plus.
À bientôt.
Ensemble sur Calade.
Allez, c'est la fin de notre émission Ensemble sur Calade. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Dans quelques secondes, vos pages d'information quotidienne, le journal de RFI suivi à 13h10 du journal de Sylvie Rosier. Et puis à partir de 14h, vos émissions de l'après-midi, vous retrouvez Chansomania à 14h pour la chanson française. À 15h, Polémix, la voix off. Et puis à partir de 16h, Cinérama, l'émission qui vous parle de cinéma. Très bon après-midi. Et puis à demain, rendez-vous à 12h12 pour un nouveau numéro. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.